Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast de l'arrière-cour, le premier. La crise du Covid-19 va-t-elle renforcer l'influence de la Chine dans le monde? Ce sera le sujet de ce débat que nous vous proposons aujourd'hui. Alors, nous sommes confinés, mais ça ne nous empêche pas de réunir, par les magies de la radio, trois directeurs de recherche du CNRS. Tout d'abord, Stéphane Grumbach, qui est spécialiste des réseaux numériques à l'ENS de Lyon. Marie-Thérèse Renard, qui est économiste à l'université de Clermont-Ferrand, et Jean Ruffier, qui est sociologue, professeur émérite à l'université Lyon 3. Tous trois sont des spécialistes de la Chine. Peut-être simplement pour commencer, un état des lieux. Est-ce que la Chine, qui semble avoir réussi à dépasser la crise du Covid-19, arrive à faire redémarrer son économie, Marie-Thérèse Renard?
L'économie, elle reprend, mais elle reprend lentement pour plusieurs raisons. D'abord parce que la fermeture de beaucoup d'entreprises et puis les difficultés de transport, de se déplacer d'un endroit à l'autre ont fait que beaucoup de migrants sont retournés chez eux, ne sont pas dans les entreprises. Il y a aussi une crainte de la reprise du virus ou de la permanence du virus qui fait que certaines personnes hésitent à aller travailler, aller dans les lieux publics. Et puis il y a aussi le fait que la Chine est également très dépendante du reste du monde. Et comme il y a une crise dans le reste du monde, enfin une récession, on peut dire, hein, dans le reste du monde, eh bien la Chine, d'une part, n'a pas ses débouchés habituels. Et d'autre part, manque aussi d'approvisionnement, puisqu'elle est sur les chaînes de valeur et qu'elle manque d'approvisionnement dans un certain nombre de domaines. Alors, on y reviendra, mais déjà, moi, je suis un peu surprise qu'on découvre l'autoritarisme du régime. On a l'impression que jusque-là, on ne l'avait pas vu et qu'aujourd'hui, on le découvre. Et qu'on découvre le fait qu'il y avait une hégémonie américaine sur une partie du monde et que les États-Unis prennent mal l'idée que cette hégémonie puisse être mise en cause. C'est pas le virus qui a créé tout ça. Ça existait avant.
Stéphane ou Jean, quel est l'état de la Chine aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on en sait en fait?
Mon impression est que on n'est pas dans une bonne période des échanges d'informations à l'intérieur et à l'extérieur de la Chine. C'est-à-dire que c'est vrai que la Chine est une dictature depuis très longtemps, personne ne le nie. Mais on peut penser que dans la dictature, il peut y avoir des bons et des meilleurs moments, et des pires.
Oui.
Et là, mon impression, c'est que pour ce qui nous concerne, surtout pour ce qui concerne mon impression qu'il s'agit d'un accident industriel, il y a eu une dégradation du système d'information intérieur chinois qui explique pour beaucoup la gestion catastrophique de la crise. Ce que je pense, c'est que en 2002-2003, la Chine a plus ou moins bien réussi à bloquer la pandémie. En tout cas, elle l'a bloquée. C'est pas, ça a pas été, c'était une maladie au moins aussi grave que la présente et elle n'a pas fait autant de dégâts en dehors de Chine. Donc, il y a eu un certain succès de méthodes qui étaient, on va dire, à la fois traditionnelles et à la fois directives du type central, Parti communiste central. Et que pour un certain nombre de raisons liées, à mon avis, plus à des raisons de ce qu'on autorise ou n'autorise pas à circuler dans l'information, donc des raisons, disons, indirectes, ça n'a pas marché. Et donc, mon hypothèse, c'est qu'on est plus dans une catastrophe industrielle et que on va avoir beaucoup de mal avec la Chine dans la période qui vient parce qu'il faut que celle-ci revienne à un fonctionnement plus normal chez elle. Je ne veux pas critiquer le gouvernement chinois par ailleurs. Je ne veux pas non plus lancer un procès parce que je ne vois pas bien l'intérêt de le faire, puis surtout les moyens qu'on aurait à le faire. Donc, je pense qu'une bonne partie de la solution est chez eux et qu'ils ont les moyens d'améliorer la
Mais est-ce que,
situation.
si je peux me permettre de réagir à ce que vous venez de dire, est-ce que vous ne pensez pas que pourtant, beaucoup de Chinois ont beaucoup plus accès à l'information aujourd'hui qu'en 2003, compte tenu de l'importance des réseaux sociaux? Alors bien sûr, ils sont contrôlés, le gouvernement aussi intervient, mais on voit bien quand même qu'il y a des choses qui pouvaient être cachées avant et qu'elles sont beaucoup plus difficilement cachées aujourd'hui parce qu'il y a... Y a aussi, alors je suis d'accord avec vous, depuis quelques mois, et en tout cas de toute façon déjà depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, il y a un durcissement de la situation, mais à plus forte raison, c'est depuis 1 ou 2 ans, ça c'est sûr, mais en même temps, je trouve qu'on voit bien que beaucoup de Chinois, alors certainement c'est inégalement réparti dans la population, mais beaucoup de Chinois ont accès à des informations étrangères et que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui circulent quand même, beaucoup plus qu'en 2003.
Une information sur l'étranger meilleure des Chinois, je crois, oui, je pense. Mais le problème n'est pas tellement là. Il est le problème des échanges à l'intérieur. C'est-à-dire que le problème pour moi, c'est quand dans une organisation, j'ai fait une bêtise, est-ce que je peux le dire ou ne pas le dire? Est-ce que je risque à le dire? Et je pense qu'aujourd'hui, le risque est majeur. Si bien qu'on ne sait pas.
Oui. Il y a quand même la spécificité du régime chinois qui fait que les gouverneurs des provinces sont promus par le gouvernement, nommés, etc., par le gouvernement, et donc ils sont soumis au gouvernement. Et on a bien vu dans le cas de Wuhan que les informations n'étaient pas remontées assez vite, sans doute parce qu'il y a crainte de la part des autorités locales de ce qu'aurait pu dire le gouvernement s'il y avait eu une erreur. Moi, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, hein. Je suis d'accord avec ça. Je trouve qu'avec le recul, on voit bien qu'en Chine comme dans les autres pays, il a été assez difficile au départ de savoir de quoi il s'agissait parce qu'on ne connaissait pas bien la situation et que probablement ce système politique fait que les gouverneurs n'osent pas faire remonter aussi facilement qu'on le ferait dans une démocratie des informations, ce qui est une constante quand même en Chine.
Oui, c'est vrai. Je veux dire, ce qui a marché dans l'épisode du SRAS, c'est pas tellement le fonctionnement des autorités nationales par rapport au gouvernement provincial, c'est le fonctionnement des autorités locales. En fait, où se trouve le premier blocage? Il est au niveau local. C'est-à-dire que une municipalité même française, qui se débrouille bien, elle bloque mieux le virus qu'une municipalité qui se débrouille mal. Et quelque part, eh bien dans le SRAS, dans l'épisode donc, il y a 2002-2003, les municipalités, les unités de vie, etc., elles ont eu peur, elles se sont verrouillées, elles se sont bloquées. Et quelque part, le gouvernement, les autorités se sont accommodées à ça. Il me semble que cette fois-ci, cette fonctionnement-là, qui est le fonctionnement asiatique, qui explique pourquoi peut-être le Vietnam, parce que je ne suis pas sûr qu'on soit très informé sur le Vietnam, mais pourquoi le Vietnam a bien marché alors que c'est à côté de la Chine? Et bien, c'est parce que des fonctionnements traditionnels ont été mis en œuvre et qui n'ont pas été bloqués. En Chine, on a bloqué ces fonctionnements traditionnels. Et pourquoi?
En plus, comment on l'a bloqué? Oui, oui. En plus, c'était le moment du Nouvel An chinois, une très grande ville. Enfin, il y avait tout pour que ça se répande.
Hein. C'est sûr, qu'ils n'ont pas été aidés. Hein. Je veux dire, globalement, on ne peut pas non plus mettre toute la gestion de la crise au débit des autorités chinoises. Elles sont quand même devant quelque chose d'un peu nouveau pour elles.
Oui, oui, bien sûr.
Stéphane, tu voulais réagir?
Oui, sur plusieurs points. Je pense que donc j'ai pas d'infos particulières et donc c'est quand même assez difficile de juger et il faudra du temps. Je pense qu'il y a plusieurs aspects qui me paraissent fondamentaux. Le premier, c'est la question pour tout gouvernement d'avoir l'information et d'avoir les mécanismes de remontée d'information. Et je pense qu'effectivement il y a là une difficulté, mais je ne suis pas tout à fait sûr que cette difficulté soit propre à la Chine. Donc, il y a eu des moments où le gouvernement peut avoir une capacité plus ou moins grande de faire remonter des informations sur des sujets de ce type-là, plutôt qu'elles soient cachées, qu'elles soient remontées. Et je crois effectivement que le durcissement aujourd'hui rend ces mécanismes plus difficiles. Il y a quelque chose dans le regard sur la Chine que je souhaiterais généraliser. Il se passe en Chine des choses qui, à mon avis, se passent globalement sur la surface de la planète. Une certaine crispation, une angoisse du futur, un rejet de la politique de l'autre. Et c'est très manifeste, évidemment, pendant cette crise, puisque chacun des gouvernements va devoir justifier à sa population les difficultés qui seront les conséquences de la crise. Et il les justifiera pour une part en blâmant les gouvernements étrangers. Donc ça, c'est assez universel. Alors, je crois aussi qu'on a beaucoup parlé, on voit beaucoup parler de démocratie et de dictature. Pour bien des aspects dont on parle, je ne suis pas sûr que ce soit le sujet. Par exemple, dire que la dictature est plus à même de gérer une épidémie parce qu'elle a plus de contrôle de sa population. Je n'en crois rien. Je crois si la démocratie est un meilleur système, alors la démocratie devrait être plus à même de gérer ce type de crise. Donc, je ne crois pas que ce débat revient beaucoup en ce moment dans la presse, et je ne crois pas que ce soit le problème. Je crois qu'il y a une évolution globale des régimes politiques, et je ne peux pas ne pas faire une corrélation entre le durcissement partout de la politique, le développement de la surveillance, par exemple, de manière massive dans absolument tous les régimes politiques, et la question globale qui concerne absolument tout le monde, qui est la dégradation prévisible et déjà engagée de l'environnement global qui va changer la donne à l'international et dont on ne peut que anticiper un durcissement assez fort. Et cette crise, cette pandémie, le montre assez bien.
J'ai bien aimé si la démocratie est un meilleur régime, mais est-ce que dans cette crise, on n'a pas vu une capacité de réaction différente des différents États, et finalement, peut-être une mauvaise information de la Chine au départ, mais une capacité à réagir rapidement, plus forte. En tout cas, c'est le sentiment que ça a donné.
En Chine. Oui, bien sûr. Et ça c'est comme Jean le disait aussi, vrai au Vietnam ou dans d'autres pays d'Asie orientale. Et sur ce point, il y a plusieurs éléments. Il y a le fait qu'ils ont déjà fait face à des épidémies récemment et de manière répétée. L'autre chose, c'est que les gestes élémentaires sanitaires comme le port du masque sont très largement répandus dans ces pays. Donc, c'est quelque chose qu'on fait de manière individuelle quand on a un rhume. On le fait a fortiori quand il y a une épidémie. Et puis, il y a une autre question sur laquelle on reviendra sans doute après, qui est l'utilisation des moyens numériques pour le bien commun.
Oui, effectivement, on va aborder la question numérique après, mais peut-être sur ce point, pourquoi les démocraties finalement n'apparaissent pas dans la gestion de ces crises comme des régimes fonctionnant mieux, tout simplement, et qu'on a le sentiment au contraire
que... Alors, je voudrais réagir là-dessus parce que j'ai souvent eu des discussions avec des journalistes qui me disaient « Mais vous voyez, la Chine construit un hôpital en quelques jours, nous, on ne serait pas capable de faire ça. » Je ne suis pas sûre que ça ait beaucoup de sens d'utiliser ce genre d'argument, parce que la Chine sait très bien faire de la propagande. À partir du moment où vous dites à l'armée vous construisez un hôpital de campagne, tous les pays du monde peuvent le faire. La Chine sait très bien le mettre en avant par de la propagande, etc. Et que, évidemment, dans une dictature, vous imposez des choses aux gens. Donc on peut dire que ce type d'action va avoir une efficacité à court terme parce que les gens n'ont pas le choix, ils n'ont aucune liberté. Je ne pense pas que ça entraîne une hiérarchie entre les systèmes. Il me semble qu'il y a une chose qui a changé depuis quelques années, c'est que, alors que depuis, on va dire, la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a été jusqu'au début des années 90 dans des périodes de guerre froide où on a opposé un régime communiste à des démocraties, qu'ensuite ces démocraties ont donné l'impression qu'elles faisaient preuve de leur supériorité, et que depuis quelques années, il y a un certain nombre de pays qui ont émergé dans le monde par leur puissance économique qui ne sont pas des démocraties. C'est le cas de la Chine, c'est le cas de la Russie, c'est le cas d'un assez grand nombre d'autres pays, parce que beaucoup de pays ne sont pas des démocraties. Et que du coup, ça rebat un peu les cartes parce que on est obligé de tenir compte de ce que veulent ces pays et de la façon dont eux-mêmes perçoivent les choses. Moi, pour m'autoriser une opinion personnelle, je suis très attachée à la démocratie, au respect des droits de l'homme, etc. Mais je suis un peu gênée pour considérer que les valeurs éthiques que j'ai doivent être imposées au monde entier, même si je pense qu'elles sont supérieures. Et il est évident qu'aujourd'hui, dans les relations internationales et dans la gouvernance mondiale, on doit faire beaucoup plus qu'avant une place à des pays qui ne partagent pas ces valeurs, ou en tout cas dont les gouvernements ne partagent pas ces valeurs. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est assez récent, parce que quand on regarde comment se situait, quels étaient les choix des institutions internationales, par exemple, c'était clair, les institutions internationales des Nations Unies étaient dominées par les pays en développement, par les pays développés, pardon, même si c'est aux Nations Unies un pays, une voix, donc une voix donnée aux pays émergents ou en développement, les grandes institutions de Bretton Woods, de la Banque mondiale ou le Fonds monétaire, sont clairement sous l'influence des États-Unis. Et donc, l'ordre mondial, il était celui-ci. Et aujourd'hui, ça change. Et je pense que l'inquiétude qui est générée pour beaucoup de gens, c'est de dire, bon, on est dominé par les États-Unis, certains pensent que c'est bien, d'autres pensent que c'est pas bien, mais c'est une démocratie. Est-ce que demain, on peut être dominé par un pays qui n'est pas une démocratie? Et je pense qu'en arrière-plan, il y a souvent cette discussion qui conduit à s'interroger sur le fait d'ouvrir nos institutions, nos discussions, etc., à des pays qui n'ont pas les mêmes objectifs politiques. Alors, la Chine et les États-Unis ont un objectif commun, qui est de définir les règles. Voilà. Mais sinon, je crois que ça, c'est un changement, qui est un changement profond dans les relations internationales.
Jean ?
Oui, mais je suis effectivement...
Je suis d'accord avec ça, ce que vous dites, mais cependant...
Ouais, Jean qui avait levé la main avant, je ne t'ai pas vu lever la main.
Excusez-moi Stéphane, mais quand tu lèves la main, je ne le vois pas.
Hein. Oui, oui.
Je suis désolé. Je voulais dire, mon raisonnement à moi, il est plutôt dans la gestion des crises. Et donc, ce que je remarque, c'est ce qui a bien fonctionné, ce sont les pays qui étaient préparés à une crise du type épidémie subtropicale, hein, je veux dire que globalement. Tout le sud-est asiatique était relativement préparé, avait prévu les choses, il y avait une organisation de l'OMS, il y en a même qui ont pris des messages avant que la Chine les relaie, hein, des messages de l'OMS. Donc, c'est ça qui a marché. Hein, c'est quand on avait un plan, la Chine, dès le moment où elle a appliqué son plan, ça a marché, je pense que ça a marché, il n'y a pas de doute là-dessus. Je ne sais pas si ce débat sur la démocratie et la dictature est un débat très opérationnel pour ce qui nous concerne de cette crise. Oui. Je ne sais pas. Parce que d'abord, je vois mal que l'on puisse transformer la Chine en une démocratie type français en quelques temps. À mon avis, si on le fait rapidement, ce sera une catastrophe économique, politique et humaine mondiale. Je ne vois pas non plus qu'on puisse transformer la France en une dictature à la chinoise en très peu de temps non plus. Et je ne le souhaite pas non plus. C'est-à-dire que je pense qu'il vaut mieux viser sur des évolutions lentes qui sont, pour le bonheur de l'humanité, mieux que mettre en place un système qu'on croit être le meilleur partout. Je veux dire que globalement, on s'assure des défaites, des échecs fantastiques. Non, moi je crois que c'est la gestion de la crise qu'il faut travailler pour comprendre comment on peut arriver à une catastrophe comme ça et surtout comment on peut l'éviter. Parce que, bien sûr, il y aura des leçons à prendre en France, en Angleterre, aux États-Unis, il n'y a aucun doute. Mais là, dans ce cas de figure-là, il me semble que les premiers à réfléchir sur ce qui s'est passé, ce sera les Chinois, parce que tout part de chez eux, et visiblement, quelque chose n'a pas bien marché. Je veux dire, je ne veux pas renvoyer la pierre sur eux, mais globalement, c'est eux qui vont tirer les leçons, et c'est eux qu'il faut aider à tirer les leçons de cette affaire-là pour que ça ne se reproduise pas. Maintenant, il faut traiter le problème.
Ils sont plus fragiles aux catastrophes industrielles ?
C'est mon hypothèse. Aujourd'hui, je ne suis pas étonné qu'il y ait eu une catastrophe industrielle en Chine. Et je dirais, j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres, mais pour moi, les avertisseurs sont au rouge. C'est-à-dire qu'on est dans une situation un peu délicate au niveau de la gestion des grands risques par la Chine.
C'est quoi les avertisseurs ?
Les avertisseurs, c'est comment fonctionnent les systèmes de sécurité. Si on s'aperçoit qu'un système d'automatique qui aurait dû déclencher un plan épidémie a été bloqué pour des raisons politiques, on se dit, mais dans une usine, il suffit qu'il y ait un grand chef qui arrive de Pékin et il peut bloquer un système de sécurité. Et c'est probable, aujourd'hui c'est probable. Je connais suffisamment l'administration chinoise pour savoir que, en général, les systèmes de sécurité fonctionnent bien parce que les fonctionnaires sont très attachés. Et il y a beaucoup de gens, disons, qui vont agir correctement quoi qu'il arrive, hein, dans le fond. Mais aujourd'hui, ces gens-là même ont plus peur que jamais. Ils sont comme terrorisés. Et c'est pas bon. C'est évident que c'est pas bon. Si la personne sur le sang-froid duquel on compte pour faire face aux événements est elle-même déjà terrorisée, on est mal. Et je crois que les Chinois, actuellement, dans beaucoup de situations, ils sont mal. C'est un peu ce que je dis. Bien sûr, tout ça, ça n'est que relatif par rapport à un état meilleur, hein. Je veux dire que c'est pas non plus toutes les usines vont pas exploser en Chine, loin de là. Heureusement qu'il y a encore des gens qui tiennent la route. Bon.
Donc, on peut s'attendre à d'autres catastrophes industrielles venant de Chine. Par contre, est-ce qu'on est capable de mieux se préparer? Est-ce qu'on donne des signaux de mieux s'adapter aux prochaines crises?
Nous, les Français, non.
Et les Chinois?
Les Chinois, ils ont du travail à faire chez eux. Nous, on ne voit pas bien comment on peut se préparer à un autre accident chinois. Je veux dire qu'on va le voir.
Je suis d'accord avec ce que vous avez dit sur la prévention des crises, et on voit bien dans le cas de la France, par exemple, le fait qu'on avait pas supprimé, mais mis en repos, supprimé le personnel, les moyens, etc., des organismes qui géraient les crises, les épidémies, etc. Donc c'est sûr qu'on n'était pas bien préparé à ça. Je trouve quand même qu'il y a un point dont on n'a pas parlé sur le cas de la Chine. C'est la faiblesse du système de santé, le fait qu'il n'y ait pas de médecin généraliste, et que les faiblesses des hôpitaux dans cette crise-là sont vraiment apparues très vite. Et les spécificités, on pourrait dire, du système chinois, même s'il a beaucoup progressé, cet engorgement des hôpitaux n'aurait certainement pas eu lieu s'il y avait des médecins généralistes, que la Chine essaie de développer sans beaucoup de succès.
Et Stéphane ?
Je te vois. Alors, pas. C'est vrai qu'il y a plein de choses auxquelles j'aimerais réagir. D'abord, un point sur la question des valeurs. Vous avez dit que vous étiez, je ne me souviens plus de l'expression, mal à l'aise à l'idée d'imposer nos valeurs, mais que néanmoins vous pensez que nos valeurs sont supérieures. Moi, je pense nullement que nos valeurs soient supérieures. Je pense qu'il y a de nombreux systèmes humains et de nombreuses sociétés qui fonctionnent de manière différente. Et nos valeurs ont été les valeurs des puissances dominantes, et ces puissances dominantes les ont imposées au reste de la Terre. Alors, on est dans une situation un peu critique parce qu'on sent, en tout cas pour les pays européens, que cette domination arrive à son terme, ou en tout cas, nous ne sommes plus dans une situation dominante, et il y a un peu une interrogation sur ces valeurs. Moi, je crois, enfin, ce qui m'intéresse, et dans ce débat, ce qui m'intéresse de manière générale, c'est de comprendre quels sont les phénomènes qui touchent à peu près l'ensemble des pays. Il y a des choses qui permettent de distinguer ce qui se passe en Chine de ce qui se passe en Europe, mais il y a aussi des choses qui vont être communes entre les deux. Et si on regarde cette crise, je crois que il y a énormément d'articles sur la Chine dont le ton, ne serait-ce que le ton, est ostensiblement dans une critique hostile, pas dans une critique constructive. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui a pu ne pas marcher en Chine et ce qui a pu ne pas marcher chez nous, puisque beaucoup de choses n'ont pas marché chez nous, et nous payons, nous, les pays européens actuellement, le plus lourd tribut à cette épidémie par manque de préparation, mais pas seulement par manque d'anticipation, mais aussi pour une gestion sur laquelle on reviendra dans la construction de politiques plus résilientes à l'avenir.
Donc, pour préciser ton propos là-dessus, en quoi on a failli, et puis question subsidiaire, est-ce qu'on est sûr qu'on a vraiment payé le plus lourd tribut, ou est-ce qu'on n'est pas
à ce stade on a payé le plus lourd tribut. On verra, en tout cas en nombre de la part des morts
officiellement
est la plus forte à ce stade et officiellement, oui, mais bon. Il y a quelque chose, on y reviendra sur le numérique, mais il y a quelque chose que Jean a évoqué ça aussi, mais il y a une vraie question autour du port du masque, et donc la communication autour du masque dans nos pays a été erronée et mensongère. Il y a dans le masque tout un symbole et tout un symbole du rapport à l'autre. Et donc, je crois que nous payons actuellement un individualisme forcené face à ce qu'on va trouver en Asie orientale et que Jean a sans doute appelé, je ne me rappelle plus du mot, mais culture d'Asie orientale, quelque chose qui, dans la société contemporaine, par rapport à la société contemporaine chez nous, est probablement plus résilient et plus solidaire globalement. Alors, il y a un autre point au niveau des catastrophes. Alors, au niveau des militaires et d'imposer la construction d'un hôpital, tous les militaires de tous les pays sont sous les ordres. Et donc, il n'y a pas de différence, à mon avis, de ce point de vue. Et je pense que l'armée chinoise est capable de construire un hôpital en 10 jours. Je ne pense pas que ce soit le cas des armées européennes aujourd'hui. En ce qui concerne la capacité d'éviter les accidents, les accidents industriels, et la capacité de remonter l'information, et puis la capacité d'organiser les systèmes de sûreté qui font qu'en cas de problème, le problème est signalé tout de suite. Alors là aussi, je crois que nous faisons face à un problème global. Et chez nous, il se manifeste par le souci de l'économie qui fait qu'on est conduit par économie à réduire des secteurs qui ne sont pas très utiles et qui sont simplement des secteurs qui s'occupent du contrôle de la sécurité, de la sûreté des systèmes industriels ou autres globalement. Et je crois que ça, y a un problème certainement en Chine de remontée d'informations et de capacité pour le fonctionnaire qui s'en occupe d'être libre de signaler qu'il y a quelque chose qui semble dysfonctionner. Je crois qu'on a exactement le même problème chez nous. Ça me revient d'un certain nombre de gens dans différentes industries où les mécanismes de signalement d'erreurs ou de problèmes ont changé dernièrement, et l'optimisation économique a certainement rendu les systèmes beaucoup moins résilients. Et ça, en fait, ce qui m'intéresse véritablement, mon intérêt va beaucoup, je ne m'intéresse pas beaucoup à la critique d'un système en soi, mais beaucoup plus à comprendre ce qui, dans l'évolution de ce système, lui est propre au pays où ça se passe, et ce qui semble être une tendance assez générale dans le monde. Et là, sur la résilience, je crois qu'il y a une vraie question, puisque ce mot d'ailleurs commence à rentrer dans le vocabulaire politique, mais la résilience a un coût, et un système optimisé pour être le plus efficace économiquement est en général loin de la résilience. Et il en ira de même d'un système qui sera optimisé pour qu'on n'entende qu'une seule voix sans critique au niveau politique.
Marie-Françoise, vous vouliez peut-être réagir à...
Oui, je voulais réagir et préciser quelque chose dans ce que j'ai dit au début sur la supériorité du système. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il y a un grand nombre de systèmes politiques et que chacun peut avoir une raison d'être. Il y a un livre que j'aime beaucoup, que je recommande toujours à mes étudiants, qui est un livre d'Amartya Sen, le prix Nobel de l'économie. Ce livre s'appelle « La démocratie des autres » et il explique comment chaque pays, notamment les pays en développement, peuvent choisir des régimes politiques. Quand je dis que je crois à la supériorité, alors d'abord, je peux avoir tort, mais c'est entre une expression de la société civile dans une société et les sociétés dans lesquelles la société civile ne peut pas s'exprimer. Voilà. Moi, je pense qu'il y a une supériorité de la première. Mais d'une part, je pense qu'il y a un grand nombre de systèmes politiques qui peuvent parfaitement se comprendre. Et surtout, et je rejoins ce qui a été dit aussi par Jean tout à l'heure, c'est que les systèmes ne peuvent évoluer que lentement parce que c'est un chemin historique et qu'il y a une histoire longue. Alors, la Chine a une histoire extrêmement longue, mais les pays ont une histoire qui explique aujourd'hui un grand nombre de leur mode de fonctionnement, de ce que souhaite la population, de ce qu'accepte la population, etc. Je pense que les comparaisons, elles ne sont pas toujours pertinentes parce qu'il y a un tel chemin historique derrière que ce chemin historique explique les situations présentes. Et je suis d'accord aussi avec ce qui a été dit sur le fait par Stéphane que l'opposition entre démocratie et dictature ou non-démocratie n'est pas forcément pertinente pour analyser ces crises. Et on a vu beaucoup de critiques de la Chine non constructives qui sont toujours les mêmes sur le fait de dire comme ça n'est pas un régime démocratique, il n'y a rien à en tirer et hop, dehors, en gros. Il y a beaucoup de gens qui raisonnent comme ça, ce qui ne sert à rien, à mon avis, ce qui ne sert à rien. Donc, je pense qu'au contraire, il faut échanger avec les pays pour essayer de mieux comprendre les modes de fonctionnement. Et dernière remarque sur l'optimisation économique, ce qui a été dit. Alors, je pense qu'effectivement, le lien n'est pas forcément entre démocratie et dictature. Par contre, il y a quand même des raisons politiques derrière et des choix de politique économique qui font que c'est les secteurs qui vont rapporter le plus de profits à court terme qui vont être soutenus et que dès lors que quelque chose est soutenu à court terme, et à la limite, on peut le rejoindre au problème de la démocratie dans les pays occidentaux qui fait du court-termisme parce qu'on se soucie des élections et donc on prend des mesures qui sont les mesures les plus rentables en termes électoraux à court terme et qui entraînent la suppression ou la mise à mal d'un certain nombre de systèmes de protection, de mécanismes qui pourraient signaler les risques, les dangers qui arrivent, etc. Parce que, on le voit bien avec l'évolution ces dernières années des services publics en France, qui sont un mode de protection, qui lisse les chocs, qui, etc., etc. Même si on parle comme un économiste, si on n'a pas des considérations sociales, etc., les services sociaux ont permis de compenser les chocs, de compenser les dangers lorsque les risques se sont produits et que depuis quelques années, on voit bien qu'on a une atteinte à ces services sociaux, à ces services publics qui sont de moins en moins financés et qui ont été largement mis à mal pour des raisons idéologiques et pour des raisons politiques. Et ça, je pense qu'on ne peut pas non plus faire l'économie de cette réflexion.
Juste sur la question des valeurs, est-ce que c'est pas aussi simplement qu'on a proclamé nos valeurs universelles et donc qui a vocation à s'imposer naturellement au reste de l'humanité. Ce qui rend peut-être plus compliqué la discussion avec des régimes qui réfutent ces valeurs-là, parce que
oui.
On dit comme un
oui. Alors oui. Alors moi j'ai eu beaucoup de discussions sur ce sujet avec mes étudiants parce que je fais de l'économie du développement et que aujourd'hui, par exemple, mes doctorants sont africains et que j'ai eu beaucoup de doctorants chinois avec lesquels j'ai beaucoup discuté. Et il est évident qu'on a cherché à imposer nos valeurs dans une forme de colonialisme, enfin, dans du colonialisme, et qu'on a imposé nos valeurs. Et c'est vrai que j'aurais tendance à penser que nulle part dans le monde on a envie que ses proches, même si on raisonne de façon très individualiste, que ses proches sont emprisonnés, tués, parce qu'ils n'ont pas le droit d'expression. Je pense que nulle part dans le monde, on a envie de ça. Après, effectivement, je suis tout à fait d'accord qu'il y a un caractère subjectif dans ces valeurs, qu'on a essayé de les imposer. Et moi, qui suis une vraiment très, très farouche opposante à la peine de mort, donc je pense qu'elle n'a jamais empêché le moindre crime, dans les discussions que j'ai avec des Chinois, on n'a pas du tout le même avis sur ce sujet. Et après tout, leur avis est aussi légitime que le mien.
Et juste parce que je connais un peu les analyses de Stéphane, et Stéphane, tu me dis si... Enfin, tu pourras compléter. Si tu penses que nos valeurs sont aujourd'hui questionnées, c'est aussi sur la question environnementale. C'est-à-dire que on les a pensées dans un monde infini, et on s'affronte au réel d'un monde fini.
Oui, je crois. Ben, il y a des aspects absolument généraux des valeurs qu'on va retrouver partout. Et effectivement, personne ne souhaite vivre dans un endroit où l'insécurité est grande, et donc, par exemple, on peut être emprisonné pour une raison inconnue ou qu'on ne peut pas prévoir. Donc, je crois qu'il y a effectivement une aspiration à la sécurité qui est générale. Nous avons d'ailleurs vécu dans notre pays, à certaines époques, sous une contrainte qui faisait qu'on pouvait être arrêté et exécuté sommairement dans des périodes de troubles. Donc, ce n'est pas lié en soi à une culture, mais plus à un contexte politique. Je crois que les valeurs, c'est aussi associé à une projection dans le futur, à la manière dont on voit les constructions des solidarités, autour de la famille ou de la commune ou au travers des mécanismes qui sont mis en place par l'État et qui mutualisent le risque, etc. Donc, c'est toujours un effort de construction. Et je crois que aujourd'hui, au fond, et tout particulièrement dans le monde occidental, nous avons une vraie difficulté avec nos valeurs, parce que, je vais le dire de manière très caricaturale et très brutale et très exagérée, mais au fond, nous tuons nos enfants. C'est-à-dire que nous savons très bien, depuis les années 50, que le développement économique que nous avons, et en particulier le fait de reposer si lourdement sur l'exploitation des hydrocarbures, nous condamne à faire changer l'environnement d'une manière qui aura des conséquences fortes sur les générations futures. Et donc, au fond, certainement la première des valeurs de n'importe quelle civilisation, elle est d'aider ses enfants et d'assurer à la génération qui vient après un monde, un environnement dans lequel on peut vivre. C'est pour ça que c'est à ça que sert l'éducation, les investissements, l'ensemble des mesures légales qui protègent tout un tas d'aspects, et en particulier le futur, etc. Et je crois qu'on est dans une crise des valeurs qui est profonde, parce que précisément, on voit à quel point on hypothèque le futur. Et je me suis demandé, par exemple, pourquoi le mot éthique était si présent aujourd'hui. On parle de l'éthique absolument partout, et souvent, je ne vois pas tellement le rapport avec l'éthique. Et dans plein de domaines, je pense qu'il y a des questions politiques qu'on ne règle plus de manière politique, mais de manière éthique. Et ce que je vois, c'est à la fois une baisse... Ce que je vois, c'est fondamentalement une difficulté à se projeter dans le futur, et la politique, ce n'est rien d'autre. C'est construire le futur, et en général construire un futur meilleur, qu'on croit meilleur, et donc on est réduit à gérer le présent dans l'éthique, alors qu'au fond, on a vraiment du mal avec ça, puisque les valeurs fondamentales sont tellement malmenées qu'on ne sait pas trop, qu'on sait pas trop comment faire. Donc oui, je crois que quand je regarde le monde et quand je regarde n'importe quel aspect du monde aujourd'hui, cette épée de Damoclès que nous avons au-dessus de nos têtes, qui est l'évolution de l'environnement global et le fait que nous ne faisons pas ce que nous devrions faire pour éviter de dégrader plus l'environnement, eh bien, tous les problèmes sont nécessairement liés à ce problème-là. Le déni dans lequel nous sommes fondamentalement dans nos sociétés, eh bien, rend caduque une partie des raisonnements parce qu'une des hypothèses est juste invalide. Donc, je crois que ça, c'est vraiment un des aspects fondamentaux de la complexité de la politique aujourd'hui, et c'est totalement universel.
De ce point de vue-là, la Chine ne s'en sort pas mieux que les démocraties.
Alors, moi, je crois personnellement que la Chine a un engagement. Enfin, du moins, je sens que le chemin que prend la Chine est plus engagé ou sera plus engagé par rapport aux contraintes de l'environnement que celui que prend l'Europe.
Jean veut répondre là-dessus, déjà.
Sur ce dernier point, j'ai une opinion un peu mitigée. Il se trouve que je travaille sur le développement durable avec un certain nombre de responsables d'organisations d'entreprises chinoises qui sont dessus. Et leurs problèmes ne sont pas fondamentalement différents, là-dessus je rejoins Marie-Françoise, de ceux que ont les responsables en France. C'est en gros, ils se trouvent souvent dans des contraintes budgétaires ou d'instructions qui viennent plus ou moins du haut. Et leur problème, c'est comment on fait pour faire du développement durable lorsque, au-dessus, on vous dit c'est bien gentil, mais ça coûte trop cher. Il y a un peu le même genre de problème. Par contre, au niveau de l'industrie, et là, c'est un peu différent, c'est la Chine mise sur les technologies vertes pour développer son expansion. Elle investit beaucoup là-dessus. Là, de ce point de vue-là, elle pourrait être effectivement une des puissances qui fournissent des appareils, des instruments qui nous facilitent un passage vers un développement durable. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ?
Marie-Françoise, voilà.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça, avec ce qui vient d'être dit. Et je voudrais ajouter deux choses. La première, c'est sur le mode d'organisation. Alors, il y a une contrainte budgétaire. Il y a des injonctions variées aussi. Bon, comme vous savez bien, en Chine, un même domaine peut relever de plusieurs institutions, même si le gouvernement a fait des efforts pour simplifier tout ça. Et donc, il y a différents ministères, beaucoup de ministères, beaucoup d'institutions qui s'occupent d'environnement et qui n'ont pas toujours exactement les mêmes objectifs. Et ensuite, il y a une difficulté d'application de la loi. Entre la hiérarchie politique et la loi, en Chine, c'est la hiérarchie politique qui l'emporte. Et donc, il est difficile de faire appliquer les lois. En revanche, et je rejoins la première question qui avait été posée, la Chine est à un moment un peu particulier de l'évolution de son économie parce qu'elle arrive à un stade où il ne faut pas qu'elle tombe dans ce que les économistes appellent une trappe des pays à revenus intermédiaires. Et donc, elle augmente le niveau de vie et le revenu par habitant, le revenu moyen de sa population. Et pour cela, il faut qu'elle améliore, enfin il y a différentes conditions, mais notamment qu'elle améliore sa productivité et le niveau technologique, le niveau de qualité de sa production. Et ce qu'on appelle l'économie verte, de façon peut-être pas très judicieuse, mais bon, est un moyen pour la Chine d'améliorer sa productivité et d'aller dans des domaines dans lesquels elle peut être compétitive par rapport aux pays européens. Et donc, comme vient de le dire Jean, je pense que la Chine va effectivement développer certains secteurs de son industrie vers l'économie verte. On a vu avec les smart cities déjà, ou avec dans différents domaines d'ailleurs, d'économie circulaire par exemple, dans lesquels elle a été pionnière. Et je me souviens être aller avoir vu en Chine au début des années 2000 des gens qui se préoccupaient d'économie circulaire. Alors, c'était de façon extrêmement artisanale et pas du tout comme ça l'est maintenant. Mais c'est une préoccupation déjà importante de la population chinoise. Et on sait qu'une partie des manifestations qu'on voit aujourd'hui porte sur des questions environnementales. Et c'est ensuite un secteur qui peut permettre à la Chine de générer de la croissance économique, donc dans lequel elle investit.
Oui, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit, à la fois sur les contraintes et les opportunités de l'économie dite verte. Mais je crois qu'il y a aussi un aspect idéologique, c'est-à-dire que la Chine devient une puissance, elle va imposer une vue à une partie croissante du monde. Et il faut que cette vue ait du sens. Donc, nous sommes bien placés pour le savoir, puisque, comme le rappelait Marie-Françoise, nous avons imposé nos valeurs dans une politique coloniale au reste du monde. La Chine doit donc aujourd'hui, et donc ces valeurs, c'était des valeurs qui, pour une part, au début, c'était les valeurs de la chrétienté, et puis elles se sont transformées dans les valeurs des droits de l'homme et de la démocratie. La Chine doit porter un message. Et quand on regarde l'activité en sciences humaines aujourd'hui en Chine, et en particulier le retour à la philosophie ancienne et en particulier à la philosophie pré-confucéenne, on voit beaucoup de choses liées au rapport à la nature, à l'harmonie, etc., etc. Et je pense que la Chine va porter ce message et se faire, c'est une opportunité extraordinaire de se faire l'avocat d'une cause on ne peut plus juste. Et donc, alors comment ça se mettra en œuvre concrètement, comment on résoudra les problèmes, ça reste à démontrer, mais la manière dont nous avons imposé les droits de l'homme et la démocratie était non linéaire, non uniforme et a connu beaucoup d'arrangements avec les principes. Donc voilà, donc je crois que la Chine a ce potentiel et je crois que l'Asie, globalement l'Asie orientale, le Japon aussi où j'ai pas mal travaillé dernièrement, un des programmes très ambitieux dans ce domaine et qui sont vraiment des programmes de redéfinition d'une vision du monde, d'une vision du futur. Et ça, je crois, moi, c'est ce qui me fait penser que le futur appartient à l'Asie, à la fois que la puissance économique s'y est déplacée, mais aussi que la capacité à inventer et à penser le futur. Il y a un potentiel beaucoup plus fort que chez nous. Et donc, ça va bien au-delà des débats sur la démocratie et la dictature, qui me paraissent de moins en moins pertinents. Parce que, pour reprendre, je crois que c'était Marie-Françoise qui disait tout à l'heure, ou Jean, je ne me rappelle plus, nous voulons vivre dans des pays où nous avons le droit de nous exprimer, ou etc. Mais en fait, aujourd'hui, on sait très bien construire des systèmes politiques iniques où on peut tout à fait s'exprimer librement, mais on n'en est pas moins pour autant réduit à une condition d'esclavage. Et donc, l'expression est libre, mais elle est totalement inefficace. Donc, on peut tout à fait laisser les gens s'exprimer, critiquer comme ils veulent, puisque de toute façon, ça n'a pas d'impact. Donc, il y a cette liberté fondamentale, mais il vaut mieux un système plus juste où on est obligé de fermer sa gueule.
Ça, c'est une longue question. Marie-Françoise, oui.
Oui, je suis d'accord, c'est une longue question, mais je trouve très intéressant ce qui vient d'être dit. Et j'ai beaucoup regretté ces derniers temps qu'on se préoccupe plus de critiquer le système politique chinois que de réfléchir sur l'évolution de nos propres démocraties, l'évolution de nos propres droits. Donc, je suis d'accord et je trouve très intéressant ce qui vient d'être dit. Je voudrais rajouter une chose sur la façon dont la Chine essaye de redéfinir une vision du monde. On voit depuis le début des années 2000 quelles sont ses relations avec l'Afrique et pourquoi la Chine a-t-elle eu autant de succès pour l'instant avec l'Afrique, bien sûr parce qu'elle prête de l'argent, mais pas seulement. Aussi parce qu'elle a proposé aux Africains une autre vision des relations internationales en disant « nous ne sommes pas un pays colonisateur, nous aussi nous sommes un pays du Sud et nous allons avoir des relations qui sont des relations beaucoup plus équilibrées ». C'est un discours que les pays d'Afrique n'ont avec aucune autre puissance dans le monde qu'avec la Chine, puisque ces relations avec les autres pays dans le monde sont des relations avec des pays qui sont des pays développés ou avec des institutions internationales dans lesquelles systématiquement on dit aux pays africains « on va vous expliquer ce qu'il faut faire ». Et la Chine a choisi une autre voie qui lui vaut une audience certaine dans les pays dont on dit qu'ils sont les pays du Sud.
Je peux faire une toute petite remarque à ce sujet, Raphaël ?
Oui.
Je suis complètement d'accord avec ça et ce qui m'a frappé quand je travaillais à Pékin, c'est qu'elle a aussi les moyens de cette voie-là parce qu'elle a des régions pauvres.
Oui.
Et donc, elle n'est pas comme les pays d'Europe où l'ensemble de la population vit à un certain niveau de richesse, confrontée à un paysage qui est très étranger et difficile à penser. Elle a sur son propre territoire des régions très pauvres. Et elle sait donc faire, ce n'est pas étranger, et donc le rapport est bien plus facile en Afrique en particulier. Et sinon, j'adhère, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire, Marie-Françoise.
Tu voulais répondre ?
Juste ajouter quelque chose, c'est absolument vrai. Le fait qu'il y ait des régions pauvres et des gens très pauvres est une facilité dans les discussions et de compréhension avec les pays d'Afrique. Mais aussi, j'ajouterais que quand la Chine a commencé les réformes en 78, le PIB par tête devait être à peu près un tiers du PIB par tête des pays de l'Afrique subsaharienne. Et donc, les pays d'Afrique sont particulièrement intéressés par l'expérience chinoise en disant « mais comment ont-ils fait pour sortir autant de gens de la grande pauvreté ? Ils étaient encore plus pauvres que nous. » Et donc, on a des leçons à tirer de cette expérience, sachant que jusqu'à maintenant, on nous a imposé des choses qui ont été difficiles à vivre, on nous a imposé des systèmes politiques, on nous a imposé beaucoup de choses qui n'ont jamais permis de nous sortir de la pauvreté. Donc, la Chine sait de quoi elle parle. Et donc, je suis entièrement d'accord avec ça.
Alors, moi, ce que j'entends aussi là-dedans, c'est... donc la Chine peut apporter un nouveau modèle de développement, un nouveau modèle environnemental, mais on imagine bien que ce sera selon le gouvernement chinois, c'est-à-dire de manière avec une surveillance des populations accrue, de manière relativement autoritaire dans la gestion des comportements des populations, et donc quelque chose qui peut être relativement inquiétant pour nous.
Juste un mot sur le modèle. Je ne crois pas qu'on transpose des modèles économiques, ou sans doute pas politiques non plus, mais je ne suis pas politologue. Mais on ne transpose pas des modèles économiques. On a beaucoup parlé du modèle économique chinois. Il y a eu des travaux qui ont été faits, notamment pour voir s'ils étaient transposables aux pays d'Afrique, etc. C'est tellement imbriqué à l'histoire de la Chine, à son système politique et social. Je crois qu'il faut être très prudent sur l'idée de transposer des modèles. On peut en tirer des leçons, mais on ne les transpose pas.
Mais est-ce que l'idée que la Chine devienne leader sur les questions environnementales, de développement, comme vous pensez le dit sur l'Afrique, c'est pas inquiétant pour nos valeurs, de manière générale?
C'est difficile de répondre parce que je pense qu'on a l'habitude d'être leader. Les États-Unis, l'Europe ont l'habitude d'avoir défini les normes et d'être leader en matière d'économie, en matière de politique, etc. Et je crois que ce qui est troublant ou perturbant pour un certain nombre de dirigeants aujourd'hui ou même de populations, on voit bien en France, je suis frappée depuis le début de cette crise sanitaire par la montée des sentiments anti-chinois, etc. Je trouve ça assez frappant. Et je pense que c'est aussi lié au fait qu'on avait l'habitude que ce soit nous qui définissions les règles. Et déjà, vous savez, quand on discutait, je me souviens quand j'étais étudiante, que je discutais avec des Américains, quand je suis allée aux États-Unis, qu'on parlait de l'Europe, les Américains ne voyaient pas l'intérêt de faire l'Europe en disant « mais nous, on définit des règles pour le monde entier, pourquoi est-ce que vous, vous voulez avoir un espace dans lequel vous êtes maître du jeu ?» Et je trouve qu'aujourd'hui, on a encore, on a aussi ces interrogations vis-à-vis de la Chine en disant « mais après tout, jusqu'à maintenant, nous, on a défini les règles, est-ce qu'il est acceptable qu'un autre pays définissent les règles, et c'est là où on se repose des questions politiques.
La Chine va prendre plus de place dans le monde, ça c'est je dirais, c'est normal. Elle a cru, elle a fait elle a du succès derrière elle, technologique, la lutte contre la pauvreté. Il n'y a aucune raison qu'elle ne prenne pas une place plus grande dans le monde. Je ne vois pas ce qui l'en empêchera de le faire, et puis je ne suis pas sûr que ce ne soit pas souhaitable qu'elle prenne plus de place. Par contre, on ne doit pas non plus être naïf et se méfier de certains aspects du développement chinois qui sont quand même problématiques pour nous. Et je parle par exemple du problème de la prédation technologique. Hein, je sais que les services secrets sont assez sensibles là-dessus, et des moments où les services de l'intelligence économique le sont très sensibles là-dessus. Et il y a un domaine qui nous touche directement, celui de la recherche sur les traitements du Covid, la vaccination, etc. Et ça nous touche vraiment parce que là-dessus, la Chine voudrait être leader. Hein, je veux dire. Or, si on regarde ce qu'on sait de la science en Chine, l'investissement sur la virologie, sur la biologie de la Chine a été relativement limité. C'est un pays qui a cru en termes de recherche de façon considérable, mais elle s'est focalisée massivement sur ce qu'il pouvait rapporter dans son système industriel. Et quelque part, on va dire, en virologie, l'Occident a un point, un avance considérable sur la Chine. Seulement, la Chine a une manière d'acquérir la technologie qui est un peu différente des autres pays, même si l'espionnage est caractéristique de tous les pays industriels. Hein, je veux dire qu'en gros, tout le monde espionne tout le monde. Mais il y a un mode de prédation qui est spécifique. Et je voudrais voir, j'ai été frappé de voir que concrètement, la collaboration scientifique entre laboratoires sur les traitements, la maladie, son développement, etc., entre la Chine et les pays occidentaux, c'est en fait arrêté. Elle a été en fait arrêtée début mars. Et le problème, c'est que c'est une décision que je soupçonne, mais qui n'a été nulle part annoncée. Les Chinois n'ont pas dit « on a arrêté notre collaboration ». Simplement, j'ai constaté qu'un certain nombre de chercheurs avaient perdu le contact de leurs amis, collègues chinois avec lesquels ils travaillaient régulièrement, où ce contact est devenu beaucoup plus flou, beaucoup moins intéressant dans ces échanges, etc. Et cela, ça m'a bien sûr rappelé ce qui se passe dans les entreprises lorsqu'ils y sont sur des technologies. Il faut comprendre comment fonctionne l'administration chinoise. Vous avez le ministère, un ministère chinois décide qu'il y a des technologies qui font blocage. Hein. Dans le développement économique, quelquefois, on a des technologies, ben on ne l'a pas, et d'autres pays l'ont, et ça fait blocage. Donc, on essaie d'identifier les points de blocage. On les identifie très précisément. Quand on a fait ça, on dit aux entreprises, aux laboratoires de recherche, etc., si vous travaillez sur cette technologie, vous serez aidés. Alors, par exemple, vous avez une technologie sur le micro-ondes que les Chinois n'ont pas. C'est un cas qu'on a bien étudié et qu'on connaît très bien. Alors, la première chose qu'on fait, c'est qu'on dit faites des collaborations. Donc, on fait des collaborations. On ouvre des joint ventures et avec des entreprises étrangères qui sont spécialisées sur le micro-ondes. Et l'entreprise étrangère, eh bien, au début, c'est fantastique. Elle voit l'efficacité du système économique chinois. C'est-à-dire qu'en très peu de temps, toutes les autorisations sont là. On peut créer l'entreprise. On a des interlocuteurs qui parlent la même langue que nous et qui sont compétents dans le domaine. Et puis, pas de problème pour avoir des autorisations. Les problèmes d'environnement, on ne les connaît pas. Les problèmes de recrutement, on ne les connaît pas. Tout fonctionne comme sur un boulevard. Et on continue à avancer. Et puis, même en échange technologique, ça marche très, très bien. C'est-à-dire qu'on vous apporte des informations, vous en apportez de votre côté. Et puis, un jour, le petit truc technologique que les Chinois cherchaient, que le ministère cherchait, il est passé. Vous ne l'avez pas forcément vu, parce que c'est quelquefois un truc idiot, un processus technique qui n'a été décrit nulle part, mais qui effectivement explique la différence entre un système qui marche et un système qui ne marche pas. Ça, je suis vraiment spécialisé là-dedans, on voit ça partout. Bon, ben, ce petit système est passé. À ce moment-là, la collaboration n'a plus d'intérêt. Et c'est en train, ce qui est en train de se passer avec les techniques de traitement du coronavirus, du Covid-19. C'est-à-dire que la Chine considère qu'elle a moins à gagner de l'échange qu'à en perdre. Elle veut devenir la puissance. Alors, elle va continuer à proposer des coopérations scientifiques pour piquer encore les trucs qui lui manquent. Mais en fait, elle ne collabore plus. Et elle est déjà dans une posture de prédation technologique et de prédation du marché qu'elle a employé pratiquement dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'elle voudrait être le grand... elle voudrait avoir le monopole du traitement du coronavirus. Ça, c'est évident pour moi. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Et c'est un peu normal que les Américains aient râlé, mais je veux dire que on râle un peu dans le vide parce que finalement, on n'est pas devant une décision qu'on connaît. On voit simplement que ça marche moins bien et que quand des chercheurs échangent moins bien entre eux, c'est très difficile à dire pourquoi. Et quand un chercheur travaille avec la Chine et qu'il a son collègue qui tout d'un coup ne lui parle plus, si on a un peu d'expérience, on sait qu'il ne faut pas insister hein, parce qu'on met le collègue en difficulté. Hein, c'est-à-dire que peut-être que ce collègue, il est considéré comme trop bien vu par les autorités françaises et donc on va l'accuser d'espionnage si nous on insiste. Alors, on se replie puis on attend que ça aille mieux. C'est ce que font actuellement les laboratoires de recherche sur le coronavirus dans leur relation avec la Chine.
Alors, plusieurs choses là-dessus. D'abord, sur la question des virus, on se rappelle des conflits entre la France et les États-Unis sur le sida, par exemple. Et donc, il y a quelque chose d'assez terrible sur l'enjeu économique pour les États et les industries pharmaceutiques qui leur sont associées dans cette lutte sans merci pour avoir les séquences et pour fabriquer les vaccins. Il y a beaucoup de polémiques là-dessus qui ont conduit certains pays, dont les Philippines, si je ne me trompe, à ne pas laisser accès, les équipes internationales accéder à leur territoire et aux séquences, parce que ce qui se passe, c'est qu'on trouve un nouveau virus dans un pays, on fabrique un autre pays fabrique un vaccin et ensuite le vend un vaccin ou un traitement et ensuite le vend à des prix prohibitifs pour le pays d'où est partie cette maladie. Et donc il y a beaucoup d'iniquité dans ce domaine des virus. Alors, un autre point que je voudrais faire et qui rebondit sur quelque chose que disait Marie-Françoise tout à l'heure. L'une des choses qui m'a fasciné dans mon expérience de diplomate à Pékin, c'est le fait de voir dans le dialogue franco-chinois, mais ça vaut pour le dialogue entre la Chine et les autres pays européens, un scénario qui était un peu toujours basé de la même manière. Du côté chinois, il y avait une volonté d'apprendre qui était très forte et une capacité d'apprendre qui était très forte. C'est-à-dire que quand une délégation chinoise rencontre une délégation française, souvent du côté français, personne ne parle chinois. Alors que du côté chinois, une bonne partie de la délégation va avoir non seulement parler français, mais avoir une très bonne expérience de la France. Et du côté français, on va trouver des gens qui souhaitent apprendre des choses aux Chinois, montrer ce que notre pays a su faire. Et du côté chinois, on va trouver des gens qui sont surtout, qui veulent surtout apprendre, effectivement. Et on le voit dans ce qui s'écrit sur la Chine, il y a beaucoup plus une volonté de condamner que de comprendre, bien souvent. De toute façon, ce n'est pas un régime démocratique, donc inutile d'essayer de comprendre plus précisément pourquoi ça marche, comment ça marche, parce que ça marche de manière qui est inacceptable. Et en fait, ce qui m'a frappé au fil des années, c'est que ce que la Chine sait de la France, c'est des ordres de grandeur au-dessus de ce que la France sait de la Chine. Et ça, c'est dû à la fois au fait que la Chine a envoyé en France beaucoup plus d'étudiants que l'inverse, bien sûr, mais c'est aussi dû à une attitude du système chinois qui cherche vraiment à comprendre ce qui se passe, comment ça marche, pourquoi ça marche bien, et de manière extrêmement précise, comme le rappelait Jean, sur bien mettre bien comprendre quel est l'endroit où il y a quelque chose qui est déterminant. Notre capacité aujourd'hui à apprendre du monde, elle est extrêmement limitée et nous sommes dans une situation paradoxale parce que nous sommes dans une situation où nous devrions apprendre du monde, mais nous n'en avons à ce stade pas encore la capacité. Et par arrogance, parce que nous avons eu une position dominante, donneur de leçons par le passé et que passer à une position plus modeste est difficile. La crise de la pandémie actuelle est probablement une bonne occasion de mettre ça en évidence et de se dire que, eh bien, dans le cas d'une pandémie, il faut très vite apprendre ce qui s'est passé, comment ça s'est passé et comment les pays ont réagi et qu'est-ce qui a marché.
Marie-Françoise ou Jean, vous êtes d'accord?
Je suis entièrement d'accord avec ça. Je suis entièrement d'accord avec ça. Et juste une référence sur un livre qui m'a marqué, qui est le livre de Claude Martin, qui est l'ancien ambassadeur de France en Chine, qui s'appelle « La diplomatie n'est pas un dîner de gala », dans lequel il décrit très bien les visites des hommes politiques français en Chine, qui, pour la plupart d'entre eux, restent deux jours, n'ont absolument pas envie de comprendre comment les choses se passent. Et là, je voyais ces jours-ci que certains veulent mener des enquêtes pour savoir quelle est la responsabilité de la Chine, etc. Et je trouve qu'il y a un côté... C'est devenu politiquement incorrect de dire ça, mais je trouve qu'il y a un côté inquisiteur qui est assez surprenant parce que beaucoup de gens, et malheureusement parfois de gens bien placés politiquement, n'ont pas envie de mieux connaître la Chine ou de mieux comprendre pourquoi les choses sont comme ça, mais partent d'emblée du fait que comme ce n'est pas une démocratie, on condamne, on va demander des comptes et à la limite, il n'y a pas de discussion à avoir et que si on discute, ça veut dire qu'on légitime le système. Et je pense que c'est une erreur profonde, qu'on a vu ce que je suis d'accord avec les termes d'arrogance et de donneur de leçons, on a vu ce que ça avait donné dans d'autres pays. Et je pense que c'est une erreur de continuer dans cette voie. Je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit.
Mais là, vous parlez du niveau politique, du niveau diplomatique. On dit souvent que le véritable pouvoir dans les démocraties européennes, il est passé du côté économique. Du côté économique, on n'a pas ce type d'attitude, non ?
Je pense que c'est universel. Je pense que c'est le cas de la presse, du monde académique, Et beaucoup des entreprises. C'est une culture du moment. Alors, on va trouver dans la presse, dans le monde académique et dans les entreprises et dans le monde politique d'ailleurs, des gens qui ont tout à fait conscience de ce qui se passe et qui voient bien qu'il faudrait agir autrement et qu'il faut comprendre ce qui se passe en Chine et sortir de l'arrogance l'arrogance aveugle en fait. Mais quand même, c'est assez dominant. Moi, je l'ai beaucoup vu à Pékin dans tous les milieux et puis on continue à le voir sur ce qui sort en ce moment sur la Chine. Tu nous avais envoyé d'ailleurs, Raphaël, un article publié par Terra Nova. Le ton et de cet article... par ailleurs, a du contenu, le ton est quand même particulier.
Oui, c'est « Le virus n'a pas vaincu l'opacité chinoise », un article de Chloé Froissart pour Terra Nova qui revient sur les mensonges du gouvernement chinois.
Marie-Françoise, je crois que j'ai pu comprendre.
Je peux ajouter quelque chose ?
Oui.
Oui, eh bien, je suis d'accord aussi avec ce qui vient d'être dit. Je pense que les grandes entreprises, elles ont besoin de trouver des débouchés. Les marchés occidentaux ont été limités et l'ouverture de la Chine a été une aubaine pour les grandes entreprises. Il a fallu beaucoup de temps pour qu'elles puissent gagner de l'argent. Et je suis dans une région dans laquelle il y a une entreprise qui est Michelin, qui est extrêmement présente en Chine, qui a dès le début investi en Chine, mais qui a mis à peu près 10 ans avant de gagner de l'argent. Mais je pense que beaucoup de petites entreprises ont fait, si vous me permettez l'expression, des coups, c'est-à-dire en disant on fait un bon coup en allant acheter pas cher en Chine. Il y a eu énormément d'échecs par méconnaissance de la situation en Chine. Et je pense, comme ça vient d'être dit, que dans tous les milieux, il y a des gens qui ont envie de comprendre la Chine, qui s'intéressent à la Chine. J'aurais tendance à penser, je n'ai pas fait d'études sur le sujet, mais j'aurais tendance à penser qu'ils sont très minoritaires, parce que la première réaction, c'est de dire « non, mais ils sont différents, c'est spécial, et puis c'est un autre monde que nous, et puis voilà ». Et ça n'empêche pas d'y faire des affaires. Et ça n'empêche pas d'essayer d'approfondir les marchés, d'avoir des produits à bas coût, etc. Mais je crois que la difficulté qu'a eu la France, par exemple, par rapport à l'Allemagne, tient à beaucoup de choses, à ses spécialisations industrielles, etc. Mais aussi au fait que, y compris les entreprises, et moi j'ai souvent eu des discussions comme ça avec les gens, y compris les entreprises, ne passaient pas du temps en Chine, ne restaient pas en Chine, c'est-à-dire aller faire un voyage de 3 jours et puis revenaient pensant que ça suffisait. Et donc, ils n'avaient rien appris. Ils avaient vu quelque chose rapidement, mais ils n'avaient rien appris. Et je crois que cette différence entre la volonté de comprendre et... encore une fois, je suis désolée de parler de moi et de raconter des petites histoires, mais je suis vice-présidente de l'Institut Confucius et j'essaye de convaincre les gens que c'est important d'apprendre le chinois, de comprendre comment fonctionne la Chine en disant que c'est une des premières puissances économiques mondiales. C'est important de comprendre comment ça fonctionne. Et dans la majeure partie des cas, je me heurte à des gens qui disent « Non, mais c'est tous des espions, il ne faut surtout pas discuter avec eux. » Et ce n'est pas marginal. Je veux dire, beaucoup, beaucoup de gens disent ça. Et donc, je pense que ce soit stratégique ou autre, les Chinois ont beaucoup plus investi dans la connaissance et la compréhension des pays que nous ne l'avons fait.
Il ne faut aussi pas se tromper d'échelle. Hein. C'est-à-dire, quand j'ai commencé à travailler sur la Chine, il y avait plus de scientifiques français que de scientifiques chinois. Oui. Aujourd'hui, on peut dire que ça a changé quand même, et c'est heureux. Et la France ne peut plus prétendre peser aussi lourd que la Chine. On peut avoir encore des réflexes anciens en se disant on a des choses à apporter à la Chine. Il est probable que la Chine a plus à apporter à la France que la France n'a apporté à la Chine. Oui. Que si on veut peser, c'est au niveau de l'Europe. Hein. Pour moi, ça me
paraît bien sûr, évidemment.
L'intérêt de la Chine pour l'étranger est quand même quelque chose d'assez nouveau. Moi, si je regarde ça dans les entreprises, les Chinois sont quand même beaucoup plus intéressés par la Chine que par l'étranger. Et surtout, disons, nous, en France, on a l'habitude d'envoyer des gens à l'étranger, dans les entreprises, et d'étudier ce qui s'y passait. Pour les entreprises chinoises, ce n'était pas le cas. Hein, je veux dire que ça s'améliore, mais bien sûr, les Chinois ont beaucoup plus d'erreurs et d'échecs dans leurs entreprises à l'étranger que les Occidentaux. C'est encore le cas. Alors, ils vont corriger progressivement, mais disons, il ne faut pas exagérer la capacité des Chinois à intégrer ce qui est la vitesse, c'est la vitesse de l'homme. Il faut passer du temps pour apprendre. Eh bien, dans certains pays, ils vont bien, ils ont appris, dans d'autres, ils n'ont pas appris. Sur l'Afrique, je pense qu'ils vont avoir quelques déboires, comme les puissances coloniales, on a eu. Hein, je veux dire, globalement, ça va leur arriver.
Je rajoute un petit mot là-dessus. Oui, je suis d'accord, notamment sur le cas de l'Afrique. Je pense que, je ne pensais pas à l'ensemble des Chinois, mais tu as raison de le dire. Je ne pensais pas à l'ensemble des Chinois. Je pensais au fait que, dans la stratégie chinoise, l'idée qu'on va essayer d'investir dans un pays, d'avoir des relations dans un pays, il y a un certain nombre de moyens qui sont mis derrière en disant aux étudiants, voilà, on va mettre plus d'étudiants qui parlent le français, et puis après, on va changer de stratégie, on va leur faire parler l'anglais ou l'espagnol parce qu'on a une autre stratégie, mais ça ne concerne sans doute pas l'ensemble de la Chine, et je pense que les Chinois vont avoir des difficultés en Afrique, ça c'est sûr.
Si on avance sur la question du numérique, un peu du monde de demain, est-ce que de tout ce qu'on a dit là, est-ce que la Chine est en capacité d'imposer les nouvelles règles du jeu, et notamment en termes d'intelligence artificielle, de 5G, mais on parlait du nouvel Internet chinois, plus facilement contrôlable. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils sont en capacité d'imposer à une partie du monde de plus en plus grande ?
Tu veux que j'intervienne, Raphaël, peut-être, sur ce sujet ? c'est effectivement le sujet sur lequel je travaille. Le point que je vais commencer par ça, parce que là aussi, on part avec un biais sur la compréhension du numérique en Chine. Si on regarde juste la Chine, les États-Unis et l'Europe, du point de vue du numérique, on voit un bloc qui est le bloc sino-américain et un bloc qui est le bloc européen. Il n'y a pas un bloc des démocraties occidentales et un bloc autre, quelle que soit la manière dont on qualifie la Chine. La Chine et les États-Unis ont par rapport au numérique à peu près la même attitude et l'Europe se distingue. Alors, en quoi la Chine et les États-Unis ont la même attitude par rapport au numérique ? Il y a des choses qu'on observe qui sont très différentes, qui est la question de la liberté de parole, du free speech, qui est vraiment un concept américain, pas du tout un concept chinois, et l'Europe se situe à mi-chemin entre la Chine et les États-Unis sur la liberté de parole. Il y a des choses qui sont interdites, qu'on n'a pas le droit de dire en Europe, et puis il y a tout un tas d'aspects de notre droit, comme le droit à l'oubli, par exemple, qui limite de facto, du point de vue américain, la liberté de parole. Mais mettons ce point de côté. Le numérique, c'est un outil de gouvernance. Ce n'est pas une activité juste du secteur privé. Ça n'a rien à voir avec l'informatique. Ça utilise des processus informatiques, bien sûr. Mais c'est quelque chose qui permet d'avoir en temps réel la connaissance, enfin, l'information qui est extraite du monde, et c'est à la fois extrait des personnes grâce au smartphone, mais pas seulement, c'est aussi extrait du territoire, des machines, etc. Et le nombre de capteurs qui extraient de l'information aujourd'hui se rapproche des 100 milliards. Le numérique, c'est donc un moyen de gouvernance parce que c'est ce qui permet de savoir, de connaître le réel, mais aussi d'agir sur le réel, puisqu'en temps réel, on peut aussi orienter l'action d'une machine ou le comportement d'un humain de manière incitative ou coercitive. Alors, en Chine et aux États-Unis, il y a une industrie nationale qui domine le territoire national. C'est le premier point commun entre la Chine et les États-Unis. Ça ne s'est pas construit de la même manière, mais il est évident que les États-Unis ne laisseraient pas un Facebook chinois, par exemple, un réseau social chinois, dominer sur leur territoire. C'est évident. De même que les Chinois sont vigilants à ce que les outils utilisés sur le territoire chinois soient chinois, et ils ont dû le faire de manière ayant commencé après, ils ont dû le faire de manière un peu différente. L'autre aspect, c'est que les deux pays ont la même intention d'aller hors frontières et que leur système soit mis à la disposition de la population et des entreprises du monde entier et les aide à communiquer, échanger, etc. Ce qui est d'une certaine manière une forme de gouvernance à distance sur un secteur particulier au début, mais qui devient de plus en plus important. Et donc il y a aujourd'hui le software américain fait que, et le fait que cette industrie ait commencé aux États-Unis fait que la présence américaine hors frontière est beaucoup plus grande que la présence chinoise, mais la présence chinoise est importante, augmente massivement. Le troisième point qui rapproche les deux pays, c'est le lien entre l'État et certaines agences et certaines de ces agences et l'industrie, et en particulier en ce qui concerne la surveillance, sur laquelle un sujet sur lequel les Européens ont fait preuve et continuent à faire preuve d'une très très grande naïveté. Dans les années, au début des années 2000, et puis ça a duré, ce message-là est un peu moins important aujourd'hui, mais on a reproché à la Chine de créer un monde fermé avec une frontière numérique et de développer ses propres outils plutôt que de laisser rentrer les outils du monde libre qui étaient Google et Facebook. Dans l'intérêt d'exercer un contrôle policier et une censure politique. Alors en fait, ce commentaire ne dit rien sur la Chine et dit tout sur ceux qui le font. Il ne dit rien sur la Chine parce que l'intérêt policier et la censure politique ne sont qu'une infime partie de l'intérêt de développer des acteurs du numérique. Et d'autre part, l'essentiel de cette industrie s'étant développé après le 11 septembre 2001, le souci de la surveillance et donc l'intérêt policier était le même aux États-Unis qu'en Chine, et il était plus puissant aux États-Unis parce que la couverture internationale de l'industrie était beaucoup plus grande. Il y a eu les services de renseignement ont des accords et des droits d'entrée, ou avaient des accords et des droits d'entrée chez les opérateurs de télécom. Et puis quand cette industrie est apparue, elle a accumulé énormément de données sur les personnes, et bien sûr les acteurs du renseignement sont allés, les acteurs du renseignement vont là où sont les données, c'est leur job. Et puis un certain nombre de pratiques souterraines, illégales, se sont multipliées. Elles ont été largement dénoncées dans la presse américaine, sans grand résultat, jusqu'à l'affaire Snowden, où le problème est tout d'un coup visible de l'opinion publique internationale, et le régulateur va donc faire un peu de ménage, et l'ensemble des pays, les États-Unis, l'Europe, mais également la Chine, vont développer des juridictions sur la surveillance et le rapport entre les agences de surveillance d'État et les grandes plateformes. Alors, il y a quand même quelque chose qui distingue la Chine et d'autres pays d'Asie d'ailleurs des États-Unis. Et c'est l'idée de coopérer de cette coopération entre l'État et les grandes plateformes pour mettre en œuvre des services essentiels qui sont des services de gouvernance et des services pour la population, et qui vont dans le sens d'une nouvelle forme de gouvernement. Alors, je crois que ce point est très important. Vu d'Europe, on est focalisé sur l'aspect surveillance du système chinois. Le système chinois va bien au-delà. Et d'ailleurs, le Japon, la Corée et d'autres pays d'Asie orientale ont la même attitude par rapport à ces systèmes. Ils les exploitent pour la gouvernance et pour le bien commun. Donc, les applications qui ont été développées, en particulier sur donc le traçage, autant que ça peut se faire, des déplacements et la possible contamination qui résulte de du fait d'avoir croisé une personne qui était potentiellement contaminée, ces applications ont évidemment été développées assez rapidement, et en fait elles sont pour une partie d'un dispositif général de services essentiels, et contrairement à ce qu'on croit ici, parce qu'il y a une obsession de la surveillance, ça va bien au-delà de la surveillance policière. C'est un service assez général et qui touche aussi de manière forte le contrôle écosystémique et donc les interactions qu'on peut avoir avec l'environnement global. En Europe, on est dans une situation très particulière. Il n'y a à peu près aucune industrie numérique sur le territoire européen. Nous sommes donc installés dans une dépendance massive des systèmes américains, à peu près totale, un peu moindre des systèmes chinois, mais elle va de manière croissante. Et notre capacité de manœuvre est aujourd'hui très réduite. L'Europe et dernièrement le gouvernement français voulaient revoir la fiscalité des grandes plateformes. Et il n'est pas en position d'imposer quoi que ce soit sur la fiscalité des grandes plateformes. Nous dépendons des grandes plateformes américaines, nous dépendons de l'industrie américaine, nous n'avons aucun moyen de nous en passer. Et nous n'avons aucun moyen de créer une industrie. Et alors, ça, c'est un point vraiment important dont il est difficile de parler, mais nous sommes dans un état de sous-développement au sens où nous dépendons d'une industrie étrangère qui est vitale, nous ne savons pas nous en passer, et nous n'avons absolument pas les moyens de la construire. Alors, on peut prétendre le contraire, on peut prétendre que l'Europe est un continent où il y a des ingénieurs, des chercheurs, des industriels, etc., etc. C'est vrai, mais force est de constater que depuis que cette industrie a émergé, depuis un quart de siècle, il n'y a à peu près aucune entreprise en Europe. Et que les rares, il existe marginalement quelques licornes sur le territoire européen, mais elles sont assez marginales dans le paysage. Et donc là, il y a un vrai enjeu, parce que la gouvernance est en train de devenir numérique. C'est-à-dire l'interaction entre les pouvoirs publics, les autorités publiques et la population va se faire au moyen de plateformes numériques. Le fait de ne pas avoir de plateforme sur son territoire et le fait d'être si mal à l'aise par rapport aux plateformes met l'Europe dans une situation de très très grande faiblesse. Alors, vous l'avez vu, et le Parlement va en débattre mardi prochain, les pays européens vont se positionner sur les capacités de traçage. Et là, l'exigence éthique est absolument immense pour une application qui concerne à la fois la protection des personnes les plus vulnérables face à l'épidémie, mais aussi au fonctionnement global de la société en confinement. Donc, deux aspects absolument fondamentaux du point de vue des valeurs. Et l'Europe est en fait dans une incapacité de mettre en œuvre une vraie politique par rapport à l'usage du numérique pour arriver à faire tourner la société en ayant un confinement plus sélectif et en protégeant les personnes les plus vulnérables. Et on touche là à deux valeurs essentielles. En Asie, on voit clairement cette capacité d'usage et qui, à mon sens, contrairement à ce que les Européens veulent faire de ces développements, bien autre chose que simplement une société de surveillance.
Alors, est-ce que, Marie-Françoise, est-ce que vous partagez cette analyse ? Ouais.
Moi, je ne suis pas très compétente sur ce sujet. Ce que je peux dire, c'est que il me semble logique d'avoir, comme l'ont les Américains d'ailleurs, des interrogations sur l'efficacité de ces systèmes. On s'est beaucoup interrogé dans la lutte contre le terrorisme sur l'efficacité du contrôle. On en a beaucoup parlé, vous l'avez sans doute tous vu avec les caméras de vidéosurveillance dans la ville de Nice qui n'ont pas empêché le terrorisme en disant que finalement, ces systèmes permettaient beaucoup de choses de surveillance, mais que les services secrets étaient plus efficaces que la technologie pour avoir des informations sur les risques terroristes. Mais surtout, ce qui me semble important, c'est que cela rejoint les problèmes de la faiblesse de l'Union européenne et de la faiblesse, pour en utiliser un euphémisme, de la politique industrielle européenne, qui a fait preuve d'une naïveté sans nom en défendant le plus possible de concurrence et en laissant la place aux autres pays. Alors, c'est un sujet qu'on ne peut pas aborder maintenant, mais je pense que ça rejoint ce sujet qui me semble particulièrement important dans une Europe placée entre la Chine et les États-Unis.
Et il y avait une question, Jean ?
Moi, j'ai juste une question qui est à Stéphane, bien sûr. Actuellement, il y a un système concurrentiel d'Internet que les Chinois sont en train de se lancer pour notamment déployer les objets connectés, etc. Est-ce que nous, l'Europe, on n'aurait pas intérêt à ce qu'il y ait deux Internets ? Un Internet oui. plus ou moins contrôlé par les GAFA et un Internet contrôlé par les Chinois. On pourrait jouer la diversité à ce moment-là, puisqu'on n'a pas actuellement les capacités à produire notre propre... C'est une question, hein.
Alors, ce qui fait Internet aujourd'hui, c'est le fait que les machines parlent la même langue. Donc, il y a un protocole ou une famille il y a une pile de protocoles, comme on dit, qui permettent aux machines d'échanger, et donc en particulier la couche IP-TCP. Qui est la couche, enfin, la brique de base du fonctionnement de l'Internet. Ce protocole a été designé il y a déjà un demi-siècle, à une époque où personne, je crois, n'envisageait que le nombre d'objets connectés puisse être aussi large. Et n'envisageait que le numérique devienne aussi fondamental dans le système de commande du monde. Et donc, c'est un protocole qui est à la fois extrêmement efficace parce que complètement décentralisé, mais pas du tout construit pour être sécurisé ou contrôlé. Le développement d'Internet et la montée en puissance d'Internet a fait partie de la stratégie américaine. La gouvernance d'Internet aujourd'hui, qui est une gouvernance avec un ensemble d'acteurs, c'est pas une gouvernance hiérarchique, c'est une gouvernance avec un ensemble d'acteurs qui travaille sur les protocoles, qui travaille sur le système d'adressage, les normes, etc. Est une gouvernance qui est fondamentalement appréciée des États-Unis, moins d'autres régions du monde. Elle sert les États-Unis. Qui, pendant longtemps, une bonne partie du trafic Internet transitait par les États-Unis. Cette partie baisse, donc évidemment, ça sert le renseignement américain. C'est évident que ce système-là sera amené à évoluer pour des raisons technologiques ou pour des raisons politiques. Alors, la Chine a tout à fait les moyens de proposer un nouveau protocole. La Russie y pense aussi. Et donc on pourrait imaginer un nouveau protocole qui soit différent dans son esprit. Aujourd'hui, l'idée du protocole Internet, c'est l'idée d'un service postal qui porte les paquets, mais sans s'interroger au contenu de ces paquets. Que les paquets soient légitimes ou pas légitimes, qu'on souhaite qu'ils circulent ou qu'on ne souhaite pas qu'ils circulent, le protocole ne s'en occupe pas. Alors, ça pose tout un tas de problèmes de sécurité dans un monde où les cyberattaques vont devenir de plus en plus stratégiques. On peut ruiner un pays aujourd'hui par des cyberattaques d'une manière beaucoup plus dramatique qu'un bombardement massif. Il suffit juste de faire s'effondrer le système bancaire, de faire s'effondrer la sécurité des approvisionnements énergétiques, enfin tous les approvisionnements en fluide.
Stéphane, il reste plus d'une minute en fait. Je vais être obligé de...
D'accord. Et donc, alors, pour répondre à la question de Jean, je pense que si la Chine réussit à développer et à promouvoir son nouveau système IP, eh bien, l'Europe se divisera entre deux zones. Une zone sur l'IP historique américain et une zone sur l'IP chinois. Il y aura des passerelles entre les deux, mais à mon avis, ce sera une catastrophe, au contraire, pour l'Europe.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois pour ce débat passionnant qui nous montre qu'il faut peut-être avant tout regarder nos propres défaillances, mais constater qu'inévitablement, la Chine est en train de s'imposer comme une puissance et que nous devrons composer avec. Merci à tous et peut-être à bientôt pour un nouveau podcast. En tout cas, je vous souhaite à bientôt pour une nouvelle édition de l'Arrière-Cour, la newsletter d'investigation dans l'agglomération lyonnaise, 100% indépendante. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est sur l'arrièrecour.fr et c'est gratuit. Merci à vous. Bonne fin de semaine à tous.